peut-être, mais je vois que j'ai un peu répondu.
Tout à fait, mais non, on reviendra. C'est donc cette pulsion d'écriture, comme s'il fallait en passer par l'écriture pour approcher l'exil. Pour une réponse pourrait être qu'effectivement l'exil étant... C'est Emmanuel Lévinas qui, je crois, donne la définition minimale de l'exil. L'exil, c'est de ne pas avoir de chez soi. Définition minimale. C'est-à-dire que, voilà, ne pas avoir de chez soi, pas de maison, pas de traces, c'est donc la nécessité de s'inscrire quelque part, et donc l'écriture. Et cette pulsion d'écriture, quand je lis Patrick Bard, et notamment deux ouvrages dont je voudrais ici parler, Poussière d'exil et La frontière, cette pulsion d'écriture me semble brûlante. C'est pas une pulsion douce. C'est pas un accommodement avec une... Voilà, par exemple, ce qui est tout à fait intéressant, le titre donc du bouquin, c'est Poussière d'exil, et puis un poème vers la fin qui en donne la clé, si j'ose dire, je me permets de lire ici, qui est un des personnages qui est poète. Tout est vérité et mensonge, rien ne dure et tout passe. Dans la poussière de l'exil repose froide la nostalgie. Et cette froideur, je la trouve pas du tout dans le roman qui s'appelle Poussière d'exil, je la retrouve encore moins dans La frontière, qui parle aussi d'exil. Alors, Poussière d'exil, c'est vraiment l'exil au féminin. C'est l'histoire de plusieurs générations de femmes, c'est l'exil espagnol, à plusieurs générations, et c'est vraiment l'exil au féminin. Dans La frontière, c'est une autre forme d'exil, c'est entre... les États-Unis et le Mexique, cette frontière qui passe, une génération entière d'ouvrières est sacrifiée. Donc je ne vais pas révéler évidemment la trame du bouquin, mais vraiment sacrifiée, je dirais, sur la frontière et en tant qu'exilée. Et si je relis ces deux livres, ce qui vient me hanter, c'est ce que dans la culture espagnole et notamment gitane, c'est ce qu'on appelle le duende, l'orca. L'orca qui, dans l'esprit du duende, dit voilà, c'est à la fois la femme et l'exil qui crient, c'est un double cri. Et j'ai l'impression que ce double cri du duende, on le trouve aussi bien dans la frontière que dans Poussière d'exil. Et pourtant, dans Poussière d'exil, il y a ce titre qui semble nous dire voilà, c'est on peut atténuer la chose, etc. Alors ma question, c'est Patrick Bard, bon, à ma connaissance, masculin, voilà, enfin en tout cas qui en a tous les attributs, y compris pilaire.
C'est une longue histoire. C'est une longue histoire que je vais essayer de résumer, mais qui tient essentiellement à ma relation avec les frontières. Vous l'avez dit, je suis né en France. Dans ma famille, l'expérience de l'exil était géographiquement limitée, néanmoins douloureuse en tout cas, qui était l'exil de mes grands-parents du Berry vers Paris, donc on voit à quel point c'est géographiquement limité, et néanmoins la douleur ne découle pas nécessairement de l'importance de la distance, puisqu'ils ont vécu une rupture linguistique, une rupture culturelle, voilà. Et puis l'autre expérience d'exil dans ma famille, c'était celle de ce grand-oncle qui, parce qu'il était homosexuel, avait dû s'exiler en Argentine, d'où il n'est revenu que pour mourir à la guerre en 1918. Et moi, j'ai grandi dans un département qui venait de naître, en Seine-Saint-Denis, et je pense d'expérience que nul ne peut grandir dans les quartiers en ignorant ce qu'est une frontière. Et pourtant, c'est près. Mais en même temps, c'est bel et bien une frontière. Donc cette question des frontières, très tôt, elle m'a obsédé et elle a été pour moi un but de voyage. Et j'ai commencé à m'intéresser aux questions de frontières et aux questions de l'exil très tôt. J'ai été amené à travailler, parce que je m'intéressais aux frontières, sur la question de la barbarie en marche. Longuement, j'ai travaillé avec mon épouse, nous avons travaillé sur la mémoire des camps d'internement français entre 1939 et 1946, donc avant, pendant et après Vichy, et notamment autour de la question d'internement des gens du voyage. Et puis, bien de fil en aiguille, nous avons atterri à cette frontière mexicaine qui est la frontière qui a fait de moi un écrivain. Et donc on en arrive effectivement à la question que vous me posiez. Et quand nous sommes arrivés pour la première fois sur cette frontière américano-mexicaine, les États-Unis avaient déjà commencé à ériger un mur On en parle toujours aujourd'hui parce que c'est très long, 3300 km, et ça coûte très cher. Mais il n'empêche que ce mur a commencé à être construit en 1994. Et c'est là, je crois, que j'ai entendu la phrase qui avait pour moi le plus de sens, qu'il m'ait été jamais donné d'entendre, sur ce qu'était une frontière. Un migrant, alors on a eu un glissement sémantique, hein. Aujourd'hui on parle de migrant, à l'époque on parlait de clandestin. Voilà. Je ne vois pas comment autant de millions de personnes peuvent être clandestins, ça m'échappe encore, mais bon, soit. Et cet homme-là se trouvait au pied du mur et commence à discuter. Je lui dis, est-ce que tu vas essayer de passer cette nuit, tu vas passer la frontière? Et il me regarde, il éclate de rire, il me dit, mais non, attends, je t'explique, t'as pas compris. C'est pas moi qui traverse la frontière, c'est la frontière qui me traverse. Et effectivement, c'est probablement la phrase la plus lumineuse que j'ai entendue sur la notion de frontière. Et c'est des frontières visibles, des frontières invisibles que nous traversons, mais surtout qui nous traversent nous également beaucoup. Et donc voilà, je suis arrivé là, ces femmes dont nous parlions étaient extrêmement nombreuses, et le spectacle de ce qu'elles subissaient dans leur négation en tant qu'être humain et en tant que femme de ce qu'elles étaient a fait céder la digue des mots et a fait que j'ai écrit ce premier roman. Poussière d'exil, c'est un peu autre chose, j'en parle très rapidement, on y reviendra éventuellement, est un roman que j'ai porté pendant des années. C'est l'histoire de ma belle famille et plus particulièrement l'histoire des femmes de ma belle famille qui, génération après génération, ont vécu l'exil, ont chacune à leur tour pensé qu'elles appartenaient à la génération qui allait changer le monde et qui ont vu la porte de l'histoire leur claquer au nez. Vous parliez tout à l'heure de silence, ça m'interpellait beaucoup parce que souvent on s'exile parce qu'on a perdu. L'exil, c'est rarement le sort des vainqueurs, c'est plus souvent le sort des vaincus. Et la mémoire des vaincus, c'est quelque chose dont les vaincus parlent peu. Et ce poème que vous avez cité, je n'en suis pas l'auteur. C'est la transcription d'un poème qui avait été envoyé à l'occasion de la naissance de la dernière née de cette lignée de femmes par un homme qui lui-même avait vécu l'exil après la guerre d'Espagne. Et donc c'est lui qui a donné le titre à ce roman que j'ai porté longtemps jusqu'à arriver à raconter donc, l'histoire des femmes de ma belle famille.
J'en reviens à ces deux bouquins pour là aussi je restreins. J'ai l'impression alors que Ana Paola Coutinho a présenté la femme comme doublement ou triplement exilée, c'est-à-dire celle qui vraiment a une expérience de l'exil intensifiée, dirais-je. J'ai l'impression. Je prends par exemple la frontière. Tony, le journaliste qui est le héros. Bon, je ne sais pas si vous avez un ulcère, mais il vous ressemble.
Non, j'ai pas d'ulcère.
Mais il y a quelque chose, bon, évidemment, qui vous ressemble, etc. Bon. Et on a l'impression, lui-même est exilé, une histoire dramatique d'exil que je ne veux pas révéler ici, mais on a pourtant l'impression qu'il a besoin, pour lire l'exil, et donc pour dire l'exil, des femmes. Je fais un saut vers Poussière d'exil, on a aussi l'impression qu'on a besoin des femmes pour dire l'exil. Est-ce que vous, en tant que romancier, effectivement, c'est quelque chose qui vous semble nécessaire de passer par la figure, je dirais pas féminine, la figure du féminin pour dire l'exil?
Ça, c'est pas facile comme réponse. Est-ce que j'ai une réponse claire à ça? Je suis pas sûr d'avoir une réponse claire. Ce que je sais, c'est que cette question du genre, elle est centrale dans mon travail d'écrivain. Et je me suis toujours intéressé à cette question du genre parce que cette question du genre, elle véhicule elle-même des problématiques de frontières. Donc c'est pour ça que les femmes sont exilées à plusieurs titres, effectivement, parce qu'il y a la question de l'exil physique, il y a la question de l'exil mental, il y a la question du genre. Au fond, il y a toujours... Je sais pas, oui, j'ai besoin des femmes pour dire l'exil, absolument. Vous disiez que je ressemble à Tony Sambudio, mais en fait, je ressemble aussi aux femmes qui sont dans mon roman. Flaubert, alors j'ai pas le talent de Flaubert, mais Flaubert disait, d'ailleurs on n'est pas sûr qu'il ait vraiment dit « Madame Bovary, c'est moi ». Bon, on peut dire Tony Samburio, c'est moi, mais finalement, chacune des femmes de ce roman, c'est moi aussi. Et je me reconnais en elles tout autant que je me reconnais dans les hommes. Justement, j'ai essayé de traverser cette question de la frontière des genres pour me reconnaître dans des femmes et dans ce qu'elles racontent et dans ce qu'elles transportent. Et du coup, par exemple, dans Poussière d'exil, je me suis approprié ces personnages, je les ai fait miens, et j'en parle toujours parce que c'est ma belle famille. Donc évidemment, j'ai connu un certain nombre de membres de cette famille, et je devais en quelque sorte transformer ces personnages de chair et de sang en personnages d'encre et de papier. Et donc il fallait que je les vole d'une certaine façon, que je les dérobe à la réalité, parce que sinon j'allais me trouver dans une situation peu enviable de raconter les nuits d'amour de ma belle-mère, par exemple. Et donc il fallait, et c'était sans doute beaucoup plus important pour moi, mais aussi pour le lecteur, que je puisse faire une sorte de hold-up, que j'enlève ces personnages de femmes et que je devienne ces femmes, et que j'arrive à penser ces femmes. Et donc, oui, j'ai besoin des femmes pour, j'ai eu besoin des femmes pour raconter l'exil. Et ça vous rentre dans la peau réellement. Juste une anecdote pour ne pas être trop long, mais à un moment donné, l'une des héroïnes du roman, je ne vous dirai évidemment pas qui, devait mourir. Elle devait mourir à la fin de la journée. Et quand on est écrivain, faire mourir un personnage, surtout quand on vit avec ce personnage depuis plusieurs années, c'est un roman qui m'a pris 3 ans à écrire, c'est pas neutre, on fait pas mourir un personnage comme ça. Et donc j'ai fini la journée en me disant, je vais pas y arriver, je peux pas, non pas aujourd'hui, j'ai pas le cœur à ça, je ferai ça demain. Je vais me coucher, et vous parliez de Lorca, les fantômes sont très présents dans ce roman. En pleine nuit, je fais un rêve, et dans ce rêve, cette jeune femme qui devait mourir donc m'apparaît. On est tous les deux assis sur une plage au bord de la mer, c'est la nuit. Et elle se tourne vers moi, elle me dit « Mais je comprends pas ce qui m'arrive, les médecins disent que j'ai plus de pouls. » Et je la regarde et je dis « Aïe, elle est morte mais personne lui a dit. » Donc il faut que je lui dise, parce que sinon, il faut que quelqu'un lui dise et il n'y a que moi ici. Donc je lui dis « Écoute, voilà. Tu n'as plus de pouls parce que tu es morte. » Et elle me dit « Ah !» Elle me regarde, elle me dit « Est-ce que je peux rester encore un peu ?» Et le plus drôle, c'est que bien que ne l'ayant jamais vue, dans mon rêve, je la reconnais tout de suite, bien sûr. Alors je lui dis « Mais oui, bien sûr, tu peux rester encore un peu. » Alors on est tous les deux assis dans le sable, comme ça, puis elle s'endort, la tête contre mon épaule. Moi aussi, je m'endors et je me réveille. Je suis toujours dans mon rêve. Et elle est partie, il y a juste la trace de ses fesses dans le sable, là où elle était assise, et puis la trace de ses pas qui sont partis. Voilà, quand elle s'est éloignée, elle a disparu. Et cette fois, je me réveille pour de bon du rêve. Je suis dans ma chambre, c'est la nuit, pour tout vous dire, plutôt en larmes. Et je rentre jusqu'à mon ordinateur et je raconte finalement la mort de cette jeune femme de cette façon-là. C'est le rêve que fait sa sœur et c'est comme ça qu'elle apprend que sa sœur est morte. Voilà. Si ça peut vous éclairer un tout petit peu sur la façon dont je ne peux pas me passer des femmes pour dire l'exil et même pour dire les choses en général.
C'est très beau, d'autant plus que entre le rêve et le vécu, il y a encore une histoire de frontière et d'exil. Merval a commencé Aurélien là-dessus. Je m'aperçois que ça va vous en dire long ce que je pense de l'institution universitaire, moi qui en fais partie, que quand j'ai présenté Liuba, j'ai complètement oublié qu'elle est professeure à Paris 4 en études russes. Voilà, j'ai complètement oublié. Ce qui prouve que le reste est bien plus important pour moi. Au lieu du péril, est pour moi une des plus extraordinaires confessions, dirais-je, confessions au sens de Rousseau, sur l'expérience exilique. C'est une richesse extraordinaire, aussi bien dans le matériau qui est rapporté que dans la finesse des analyses. Et pourtant, j'ai ressenti un manque par rapport à ce livre qui, moi, m'avait beaucoup marqué à l'époque, Une autre vie. Ça, c'est une absence. Une absence qui serait celle du féminin, précisément. Bien sûr, le féminin apparaît au lieu du péril, mais il n'a pas la même attention, je dirais, tendre et cynique à la fois, qu'il avait dans une autre vie. Est-ce que dans la construction de l'identité exilique qui est la vôtre, le féminin avait une part bien plus importante il y a une dizaine, une vingtaine d'années qu'aujourd'hui? Et quand je dis le féminin me semble absent au lieu du péril, est-ce qu'en fait c'est comme dans la lettre volée, c'est-à-dire qu'il est partout mais on le voit
merci,
pas?
Merci, bonjour à tous. Je crois que une autre vie qui est un vieux livre, il est paru en 88, donc vous voyez, ça ne fait pas 20 ans. Ça en fait presque 30, si je me trompe, 40, je ne sais plus. 30, ah bon. Bon, voilà. Donc, ce livre, évidemment, 30 ans, ça vous change une femme. Ce livre était encore dans le sillage d'une construction de soi, de. Je vais peut-être dire un mot de. Moi, j'ai immigré, donc. En 75, et le féminin a été très présent dans le concret de cette expérience de l'immigration, tout simplement parce que j'ai quitté. Donc, je suis née en Union soviétique, un pays qui n'existe plus. J'ai immigré avec ma mère et ma grand-mère, donc trois femmes, me retrouvant du coup, comme j'étais la seule à connaître le français. Dans le rôle du chef de la famille, enfin, c'est-à-dire à devoir régler toutes les questions administratives, payer les factures d'électricité, aller voir l'inspecteur d'impôts, etc. Cette immigration, en fait, on la décrit généralement comme la troisième vague de l'immigration, des émigrations russes en France. Mais cette troisième vague, qui était massive également, il y a eu quand même... je ne connais pas les chiffres exactement, mais certainement ça se chiffre en millions de personnes qui ont quitté l'Union soviétique à ce moment-là, dont la majorité était des juifs, puisque c'était la condition même pour partir. C'était une émigration donc majoritairement juive, et il fallait prouver ses ascendances juives pour avoir le droit de quitter le pays, parce que c'était un pays absolument fermé. Donc voilà, moi j'ai vécu, pour moi l'expérience de la frontière, c'est tout d'abord une frontière absolument étanche qu'on ne franchit pas. Et on sait qu'on est condamné à vivre toute sa vie dans un pays qu'on ne pourra jamais quitter, même pas pour faire un voyage. Donc c'était le désir de frontière était d'abord un désir fondamental que j'ai qui m'a été transmis dès la naissance. D'ailleurs un ami m'a dit, tu vas voir, pendant que j'attendais d'avoir le statut de réfugié, un ami m'a dit, tu verras, dès que tu obtiens ton passeport Nansen, la première chose que tu vas faire, tu vas partir à l'étranger pour traverser une frontière. Et c'est vrai que ça n'a pas manqué pendant... d'ailleurs, je le fais encore beaucoup. Et donc, cette émigration pourtant massive, et on en sait très peu de choses aujourd'hui, en fait, en France, pour la bonne raison que le fait de venir en France était plutôt exceptionnel. C'est-à-dire, la France n'accueillait pas les réfugiés d'Union soviétique. Voilà, je tiens à le répéter parce qu'on l'oublie. Moi, j'ai entendu récemment que les juifs soviétiques avaient boudé la France. Non, ils n'avaient pas le droit d'y entrer. Moi, j'ai pu le faire parce que j'avais de la famille. J'appartiens à ce... Et du coup, effectivement, être dans cette configuration avec ma mère et ma grand-mère, c'est un peu un livre, une autre vie, c'est un livre un peu d'une adolescente attardée qui aussi profite de l'occasion pour se situer par rapport aux générations d'avant, parce que ce qui se passe aussi dans une expérience comme ça, c'est que les familles éclatent. Alors il y a énormément de couples qui ont, par exemple, qui sont séparés une fois, alors que ils avaient tout fait pour émigrer ensemble, très solidaires, très proches, etc. Et puis arrivés en en Occident, le couple éclate, y compris parce que les femmes se retrouvent à porter souvent tout le, bah, tout le poids de la vie de tous les jours, et s'adaptent. Ils font des efforts pour s'adapter beaucoup plus grand que... Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai fait un peu, que j'ai faite dans le milieu des gens qui ont immigré en même temps que moi. Voilà. Mais notre famille, qui était une famille absolument fusionnelle, de trois femmes complètement voilà, enfermées dans une sorte de marginalité d'exil intérieur en Union soviétique, donc une fusion basée sur... le rejet absolument radical du régime, eh bien, une fois émigré, ce cocon n'avait plus aucune raison d'être, puisqu'il n'y avait pas à quoi s'opposer. Et donc, bon, tout en restant très proche, ben, on n'a pas... voilà, cette symbiose n'a pas tenu. Donc, Une autre vie, c'est aussi, donc voilà, c'est un livre que j'ai écrit juste avant la naissance de ma fille aînée. Et donc, avec l'arrivée, ma grand-mère était encore en vie, avec l'arrivée de la quatrième génération, le besoin de me repositionner par rapport aux générations qui me précédaient, parce que je sentais aussi, il s'est passé quelque chose après ce livre-là, c'est après que j'ai commencé à travailler sur les camps, aussi bien soviétiques que nazis, et à m'intéresser à la Shoah dans mes fictions, pendant que j'attendais cet enfant, l'histoire m'a rattrapée, d'une certaine façon. Le fait de on est voilà, on a beau se sentir indépendant par rapport aux générations précédentes, et bien le fait d'avoir un enfant place de manière presque violente dans cette histoire, dans cette chaîne, et du coup ça a été une période pendant laquelle tout d'un coup tout ce que je ne voulais pas savoir de la judéité, de la déportation, etc., m'a rattrapé très violemment. Et donc c'était aussi une façon de me positionner, voilà, de chercher ma place au sein de la famille, et trouver, voilà, pour trouver une posture générationnelle qui me laisse respirer. Donc voilà, alors évidemment, au lieu du péril, n'a pas du tout la même, voilà, c'est pas du tout le même objectif. L'objectif était de faire le point, je le fais de temps en temps, sur où j'en suis par rapport à mon, par rapport à cette double, voilà, par rapport à mon bilinguisme, au fait d'écrire en français alors que je viens d'une autre langue, de traduire vers une langue qui n'est pas ma langue maternelle, où j'en suis de ma soi-disant identité. Et c'est un livre qui réagit à une certaine crispation identitaire que l'on ressent aujourd'hui, et qui a entre autres pour but de démanteler les clichés identitaires, d'explorer l'altérité qui nous habite. Voilà, c'est un livre où j'ai essayé vraiment de dire que nous sommes multiples et que le fait d'être bilingue nous amène aussi à ressentir très fortement la contingence de notre naissance. On est là, on est né dans un endroit, mais on aurait pu être dans un autre. On est contingent. Voilà, c'est un peu ça ce que j'ai voulu dire dans ce livre. Et du coup, lorsqu'on commence à réfléchir sur la contingence, et sur l'arbitraire, et sur le hasard, etc., eh bien, le féminin apparaît aussi comme une contingence. Voilà, d'où peut-être cette impression que vous avez eue.
On revient sur ce corpus, donc ce corpus littéraire émanant du monde lusophone, brésilien, angolais, portugais. On assiste, enfin j'étais moi-même invité, puis j'ai assisté aux conférences, et il y avait quelque chose qui m'obsédait, c'était le rapport à faire entre cet exil lusophone, du côté de la littérature, avec toute cette noblesse qu'on peut lui attribuer, et puis l'exil des Portugais. Et notamment, une des communications portait sur ce film dont le titre m'échappe, La Cage Dorée, c'est-à-dire les concierges portugaises, etc. etc. Est-ce que pour vous, cette césure entre la réalité concrète de la migration portugaise en France et l'exil, disons, aristocrate, des écrivains, même si c'était un exil misérable, et le fait que ce soit des écrivains, ça y a quelque chose. Est-ce qu'il y a une césure ou est-ce qu'il y a une continuité? Et comment vous pensez cette continuité possible?
Quand tu dis « vous », c'est vous les Portugais?
Non, je dis vous parce qu'on m'a appris que quand on prend la parole en public, il ne faut jamais dire tu, parce que ça éloigne les spectateurs d'une espèce de connivence, etc. Donc voilà. Alors en fait, j'aurais dû te le dire tout à l'heure que ça serait un vous protocolaire. Maintenant qu'on n'en parle plus, qu'est-ce que tu penses de ma question?
Alors, excusez-moi de cette. Faire semblant de vue. Bon, ouais, bon, d'accord. Pour ce qui est. Je demandais donc pour pouvoir donner une réponse, comment est-ce que nous les Portugais, si je peux généraliser, comment est-ce que cette question est vécue? Et bien, elle est très mal vécue. Et c'est à cause de ce malaise que nous avons nous avons eu jusque maintenant, et je ne sais pas si nous allons continuer à l'avoir d'une certaine façon, en silence, une invisibilité par rapport à la question de la migration surtout des années 60, 70, parce que nous avons dans le panorama des migrations contemporaines, nous avons une situation assez complexe. C'est que le Portugal a été à la fois dans les années, l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux indépendances, les années 74-75, le Portugal a eu une situation tout à fait ambiguë d'exporter des migrants économiques et d'être une puissance coloniale. Donc cette ambivalence seigneur-esclave est une ambivalence très, très compliquée. Et donc même pour si on se situe ici en France, où des exilés politiques ont cohabité avec des migrants économiques, et tous étaient exilés, mais ils avaient du mal à se mêler. Et c'était une question sociale, une question idéologique. Et donc, le Portugal a eu toujours du mal à voir de face sa version migrante. Et les migrants eux-mêmes, ils ont vécu très longtemps une espèce de complexe, un complexe d'infériorité, non seulement par rapport au pays d'accueil comme au pays d'origine, parce que il ne se voyait pas reconnu. Donc ce film dont tu parlais, c'est un film polémique aussi, parce que il a eu un grand succès. La communauté des Portugais en France, la majorité s'est vue pour une fois reconnue
on a parlé d'elle à l'écran, avec du succès. Mais encore une fois, c'est une vision stéréotypée et donc qui n'est pas très agréable à voir pour ceux qui n'ont pas vécu cette expérience, parce qu'on est le portrait qu'on a des Portugais, bon, c'est un portrait très essentialisé, stéréotypé de concierge et de maçon. Donc, c'est pourquoi aussi on a voulu recouvrir cette période, parce que effectivement il y a des notre histoire, elle a cette particularité qui présente beaucoup d'enjeux, et même pour les femmes, pour si on voit du côté des femmes, du féminin, c'est aussi assez simpliste de dire que pour les femmes, l'exil a correspondu toujours à une souffrance. Pour les femmes, pour beaucoup de femmes portugaises ou lusophones, si je pense aux femmes africaines par exemple, l'exil a correspondu à une libération, et c'est pourquoi elles ne veulent pas, comme les hommes, rentrer au pays. Donc je ne sais pas si j'ai répondu
comment dirais-je sur ce pouvoir de la femme, et on a l'impression effectivement que les femmes que vous représentez dans l'exil ont quelque chose qui leur permet de survivre plus facilement que les hommes. D'après vous, Patrick, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette espèce de mémoire exilique du féminin qui les mettrait, encore une fois, ne généralisons pas, je veux dire, on analyse la littérature là pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il y aurait effectivement, vous en tant qu'écrivain, quand vous traitez d'un personnage féminin en exil, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire, que vous ne pourriez pas dire à propos d'un personnage masculin ?
Oui, on va essayer de répondre, même si vous avez raison, parcellaire, forcément. Mais justement, je suis assez d'accord avec ça, parce que dans Poussière d'exil, il est question de l'émigration espagnole. Et c'est vrai que c'est pas la même chose, l'émigration espagnole de la guerre civile et l'émigration économique. C'est deux courants migratoires qui sont distincts, notamment parce que les femmes qui ont vécu la période de la révolution espagnole, et je parle de révolution avant de parler de guerre civile, puisque ça commence par là, sont passées par l'émancipation. Après, les femmes qui ont grandi en Espagne sous Franco, arrivées en France, ont connu ce même mouvement d'émancipation que les femmes portugaises, exactement. Et donc, voilà, pour répondre à la question, ces temps-ci, enfin ça fait déjà un petit moment, j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture auprès de lycéens en banlieue. Et bien évidemment, dans des classes où il y a beaucoup d'enfants qui sont issus de l'immigration. Et il y a une chose qui me frappe. Vous disiez tout à l'heure que, Luba, que beaucoup de familles, alors on a voulu migrer ensemble, on est allé avec les enfants, ou en couple, et ça explose une fois ici. Une chose qui me frappe énormément, dans les écrits que font tous ces enfants, tous ces adolescents, c'est à quel point, la plupart du temps, et c'est pour eux une grande source de souffrance, le père, l'homme, les hommes sont complètement absents. Absents, c'est-à-dire qu'ils ont disparu du paysage. Je ne compte plus les récits d'adolescents qui sont arrivés avec leurs deux parents ou qui sont nés en France, de parents qui étaient fraîchement arrivés, et qui écrivent des textes sur leur souffrance de la disparition, de l'effacement de la figure masculine. Et donc forcément, la référence, du coup, c'est les femmes. Et donc, si ça peut répondre, en tout cas au moins de manière parcellaire à la question, c'est ça. C'est que souvent, l'histoire des femmes dans la migration, dans l'exil, c'est une histoire de cellules familiales qui volent en éclats. C'est éventuellement aussi une histoire d'une cellule familiale qui existe pour l'homme dans le pays d'origine et d'une nouvelle cellule familiale qui se crée dans le pays d'exil, et donc de naissance, de secrets de famille très lourds à porter, de crise éventuellement qui éclate, et les femmes et les enfants sont évidemment au cœur de ces crises, et donc confrontés à des combats très ardus où une grande force leur est nécessaire.
De contingence. Effectivement, il y a quelque chose de tout à fait intéressant dans la fin du bouquin Au lieu du péril, vous revenez sur cette notion de contingence. L'exil, je disais, une définition minimale, c'est l'absence du chez-soi. On pourrait également dire l'exil, c'est l'absence d'une langue, dans la mesure où la langue qui nous sert à être au monde, tout simplement, nous en sommes privés. Nous pouvons en acquérir une autre, certes, mais qui n'aura jamais la chaleur et, je dirais, la chair de celle qui nous a permis de venir au monde. Et puis l'écrivain aussi, c'est celui qui n'a pas de langue, parce que s'il avait une langue, pourquoi écrire ? Écrire, c'est chercher précisément une langue. S'il y a des locuteurs qui deviennent des écrivains, c'est qu'il y a une absence de langue quelque part. Je voudrais vous lire page 120, excusez-moi, comment dire en russe la contingence de notre venue au monde. Ouais, j'aurais pas dû choisir un passage où il y a un mot russe, parce que bon, le mot russe qui m'est venu est...
Не обязательность. Oui, vous n'avez pas choisi le plus facile. D'accord, ouais. Alors, le mot qui m'est venu est «не обязательность», le caractère non obligatoire. Kontinger veut dire «arrivé par hasard», tandis que «не обязательность» est formé sur l'équivalent russe de «obligare», qui fait apparaître l'idée, l'image d'un lien. «Obvязать» signifie «lier», «ligoter», «attacher», «entourer d'une ficelle». En traduisant ainsi contingence, je vois ma naissance désentravée, délivrée, libérée, et là, les mains libres, ma naissance.
Bon, alors, sans faire de l'herméneutique psychanalytique, ça, je réserve ça à mes étudiants, venu au monde, naissance, donc là, vous parlez de la femme ou vous parlez de l'écriture ?
Des deux, je pense que... Là, il s'agit aussi dans ce livre, en fait, de la naissance dans une langue, d'une nouvelle naissance dans une langue, et de ce fantasme d'autocréation que l'on peut avoir quand on a choisi une autre langue pour écriture. C'est-à-dire, là, ce livre est aussi pour sortir un peu de l'essentialisation de la langue maternelle. Certes, on a une langue maternelle, mais on peut aussi, en tant qu'écrivain, décider que, enfin, disons qu'une autre langue peut, on peut choisir une autre langue, mais une autre langue peut nous choisir aussi, et à un certain moment, nous choisir pour naître dans cette langue en tant qu'écrivain. Enfin, c'est comme ça que j'ai vécu les choses. Et dans ce cas, on a un peu l'impression d'être son propre père et sa propre mère dans cette langue. Donc il y a ce fantasme-là. Donc la naissance, ça correspond bien sûr à une naissance, à ce moment où j'ai cessé de percevoir la langue française comme une langue qui a été acquise, c'est-à-dire dans... Lorsque je parle français aujourd'hui, je n'ai pas le souvenir de l'apprentissage des mots que je suis en train de prononcer, comme un enfant n'a pas le souvenir de l'apprentissage. Voilà, ce souvenir du passage des mots par le corps pour la première fois n'est plus là. Donc il y a cette dimension-là. On ne sait pas, et tout comme la naissance, on ne s'en souvient pas. On ne sait plus à quel moment on s'est devenu comme ça. C'est forcément toujours rétrospectif. Mais c'est aussi évidemment la naissance de l'écriture dans cette langue. Hein. Donc, vous avez dit très justement que si on écrit, c'est parce qu'on n'a pas de langue. Donc, je n'ai absolument pas le sentiment de... Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit, j'en ai besoin de temps en temps de réfléchir sur mes outils. Qu'est-ce que, comme un ébéniste pourrait écrire un livre pour raconter comment il fait ses tables. Et puis, très vite, je me suis dit, mais c'est pas la langue qui est mon outil, c'est moi qui suis l'outil de la langue. Voilà, évidemment, on ne possède pas une langue, c'est la langue qui le possède. Donc, en ce sens, la naissance, c'est aussi cette mise à disposition de soi dans une langue qui nous a choisi.
Je suis heureux que vous parliez de ce, comment dirais-je, de cette gravité-là, de cette naissance à soi-même, parce qu'effectivement, dans la migration, il s'agit d'une nouvelle naissance à soi-même. C'est-à-dire que ceux qui sont là, que nous devons accueillir, ce ne sont pas simplement des femmes et des hommes qui sont passés d'un lieu X à un lieu Y, ce sont des femmes et des hommes qui sont en train de renaître à eux-mêmes. Nous assistons à des naissances et nous les laissons, à quelques jours de Noël, nous les laissons naître dans la rue. Une dernière question que j'aimerais poser à chacun, à chacune d'entre vous, question donc de conclusion à laquelle je prendrai de répondre brièvement. Nous le savons, il n'y a pas de solidarité entre les exilés. Nous le savons en littérature, Nabokov a écrit des pages extraordinaires sur la non-solidarité des exilés. Et je veux dire, mon travail d'accompagnement des migrants m'a appris aussi que les migrants d'aujourd'hui ne sont pas solidaires les uns des autres. Et après tout, il faut sauver sa peau. Il faut sauver sa peau. Est-ce que d'après vous, au sein de cette non-solidarité, l'identité féminine pourrait, elle, créer une solidarité? Et que la solidarité entre l'exilé syrien et l'exilé érythréen n'existe pas, mais peut-être qu'il y aurait une solidarité entre la femme exilée d'Érythrée et la femme exilée de Syrie.
Tout d'abord, j'ai la tentation de vous contredire. C'est-à-dire que je crois que c'est beaucoup trop de conclure qu'il n'y a pas de solidarité entre les migrants. Nous tous auront peut-être des histoires à raconter de solidarité entre toutes les époques et celle-ci aussi entre les plus démunis. Parfois ce sont exactement ceux qui sont les plus démunis qui s'entraident. Donc je ne suis pas sûre que cela arrive. C'est vrai, et on le lit, on le voit, il y a pas mal non plus d'histoires de tensions entre les communautés, une espèce d'histoire de famille qui ne s'entendent pas. Mais je crois que cela ne peut pas nous faire conclure qu'il n'y a pas de solidarité entre les immigrés. S'il y a une solidarité entre les... l'identité féminine, ce que je peux dire, c'est qu'en tant que comparatiste, je suis toujours j'essaie toujours d'être très attentive justement à des traits en commun entre les différentes situations, les différents exils, migrations. Et effectivement, je me rends compte qu'il y a des éléments communs qui se passent dans de différentes groupes linguistiques et culturels par rapport aux situations des femmes. Oui, c'est vrai, mais bon, je ne sais pas si si cela donne à une solidarité, si cela donne place à une solidarité plus grande entre les femmes que entre femmes et hommes. Ça, je ne suis pas sûre. Mais je crois qu'il faut nous, nous en tant que ceux qui étudions, qui analysons, je crois qu'il faut justement faire de résister à cette idée toute faite qu'il n'y a pas de solidarité entre les migrants. On peut toujours voir la bouteille mi-pleine ou mi-vide.
J'étais en train d'essayer de réfléchir et j'ai envie de vous contredire aussi, décidément. Bien sûr, chacun sauve sa peau, bien sûr, si on est à bord d'un bateau pneumatique qui est en train de faire naufrage et qu'on doit survivre, on va essayer de tendre la main d'abord à sa femme ou à son enfant. Bien sûr, la question de la solidarité se pose entre les communautés. Mais enfin, j'étais il y a quelques semaines, très peu de temps, au Mexique, qui, comme vous le savez, est un pays de migrants par millions vers les États-Unis. Et j'ai participé un peu, mais surtout les Mexicains avec qui je me trouvais ont fait ça, et parmi eux les plus modestes, à des gestes de solidarité, à des collectes de sacs à dos avec dedans des piles neuves, des chaussettes, enfin bon, tout ce qu'il faut pour la traversée du Mexique. Et on en a rempli, ils en ont rempli des camions entiers pour les migrants qui viennent du sud du Mexique, qui doivent, dans des conditions très périlleuses pour eux, traverser le Mexique pour aller aux États-Unis. Et donc, je viens d'être témoin d'une énorme manifestation de solidarité d'un peuple qui vit beaucoup dans l'exil vis-à-vis d'autres peuples qui sont également dans l'exil. Donc ça ne peut que me porter à vous le démentir, au moins en grande partie. Quant aux femmes, évidemment, moi j'ai du mal à répondre en tant qu'expert, je suis écrivain et pas du tout universitaire, donc je n'ai que des histoires à raconter. Et j'étais en train de penser, pendant que vous parliez de tout ça, à ma mère et à sa meilleure amie. À la fin de sa vie, mon père a été très très malade, et à travers une association, une femme centrafricaine est venue aider ma mère, qui était elle-même âgée et fatiguée, à s'occuper de mon père. Et cette femme centrafricaine avait à l'époque un mari avec qui elle avait eu deux filles en France, et ils vivaient à Paris, enfin en banlieue parisienne. Et puis cet homme est parti. Il a disparu, il est en réalité retourné en Centrafrique, rejoindre son autre famille, une autre femme avec laquelle il avait également de nombreux enfants. Et ma mère et cette femme sont devenues très amies, et elles sont devenues l'une pour l'autre de très grandes confidentes, jusqu'à la mort de ma mère. Et cette amitié et ce statut de plus grande confidente l'une pour l'autre, elle s'est faite autour de la disparition des hommes. De la disparition de mon père qui était en train de mourir, et de la disparition de ce mari qui était reparti en Centrafrique vivre avec une autre famille. Voilà.
Je ne pourrais pas répondre directement à la question parce que je ne l'ai pas étudiée, je ne me suis pas penchée vraiment sur cette question. Donc là aussi, je n'ai que, pendant que vous parliez, je cherchais désespérément des histoires, et je me suis rappelée. Bon, encore une fois, sur l'exemple de cette migration dont je suis partie, donc que j'ai bien connue, si ma mère a trouvé un travail immédiatement après notre arrivée en France, c'est qu'une personne rencontrée précédemment à Vienne, au centre d'accueil, et qui est arrivée à Paris avant nous, qui était une traductrice professionnelle, a trouvé immédiatement un travail, et là, tout simplement, à l'époque c'était possible, en 75, elle a amené ma mère à son entreprise en me disant « Voilà, je vous présente Vera, elle travaillera chez nous. » Bon, évidemment, c'est impensable aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que nous avons pu louer un appartement et commencer à vivre décemment en France. En ce qui concerne les femmes, moi, comme ça, l'intuition que j'ai, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure il faut considérer ça comme de la solidarité, mais en tout cas les femmes dans ce genre de situation s'organisent entre elles pour faire des repas en commun et dépenser moins cher, pour garder les enfants, il y en a une qui va faire les courses, pour aller à des cours de langue et laisser les enfants, etc. Donc voilà, peut-être et ma fille qui travaille dans l'humanitaire et qui s'occupe de réfugiés semble me dire la même chose. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'organisation et d'adaptation, et ce qui contribue d'ailleurs à cet effacement de la figure masculine, parce que l'homme, qui souvent dans ces familles jouait vraiment le rôle du chef de la famille, tout d'un coup se retrouve complètement inexistant et incapable de prendre à bras le corps les problèmes quotidiens qui sont du coup dévolus aux femmes, qui jouent un rôle qui n'était pas leur dans la tradition dont elles sont issues, donc ça cause aussi toutes sortes de problèmes.
Merci infiniment pour vos réflexions, vos témoignages aussi, dirais-je. Ainsi s'achève cette seconde table ronde de l'ITExil, salon consacré aux littératures de l'exil et des migrations. Je ne sais pas s'il reste encore quelques livres sur la table. Il n'en reste plus ? Oui, quelques... Non ? Bon, on me fait signe qu'il y en a. Il reste un livre de Liouba, on peut le mettre aux enchères, et les bénéfices évidemment. Merci à nos partenaires, donc le musée d'histoire de l'immigration de la Porte Dorée. Je vous invite à consulter les deux endroits où vous pourrez à la fois avoir des nouvelles, des suites qui seront données à ce salon, et puis d'une manière générale aux activités de la chaire Exil et Migration. Il y a donc une page Facebook qui s'appelle Migrexil, M-I-G-R-E-X-I-L, et également un carnet hypothèse, c'est www.migrexil, M-I-G-R-E-X-I-L, .hypothèse au pluriel, .org. Donc vous serez tenu au courant du calendrier de vos activités. J'imagine que sur le site de la Porte Dorée également, les informations seront diffusées. Merci de votre présence et à très bientôt.